Chapitre 13, la Bible. Il y a dans les Écritures des milliers de joyaux qui sont cachés aux chercheurs superficiels. Cette mine de la vérité n'est jamais épuisée. Plus vous sonderez les Écritures d'un cœur humble, plus votre intérêt grandira et plus vous vous sentirez poussé à vous exclamer avec l'apôtre Paul, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Le Christ et sa parole sont en parfaite harmonie. Reçue et obéie, celle-ci ouvre un surchemin à tous ceux qui veulent marcher dans la lumière, comme le Christ est dans la lumière. Si le peuple de Dieu appréciait mieux sa parole, nous aurions déjà le ciel ici-bas. Les chrétiens devraient la sonder avec avidité. Qu'ils recherchent avec soin la lumière qui s'en dégage et prennent le temps de comparer des passages entre eux. Qu'ils lisent moins les journaux, les magazines ou les romans. Leur grand désir devrait être de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu. Leur vie se conformerait ainsi aux principes et aux promesses de l'Écriture. Ces instructions seraient pour eux comme une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Les ondées rafraîchissantes de la grâce raviveraient leur âme. Ils seraient affermis et encouragés par les paroles de l'inspiration. Par la diversité de ses styles et de ses sujets, la Bible peut intéresser tous les esprits, attirer tous les cœurs. Dans ses pages, on trouve l'histoire de la plus haute antiquité, les biographies les plus exactes, des principes de gouvernement, d'économie domestique, que la sagesse humaine n'a jamais égalé. On y trouve la philosophie la plus profonde, la poésie la plus délicate et la plus grandiose, la plus vibrante et la plus émouvante. Même sur ces plans-là, les textes bibliques sont incomparablement supérieurs à tous les autres textes. Mais si on les considère en rapport avec la grande pensée centrale, leur valeur, leur portée deviennent immenses. Chaque sujet prend alors un sens nouveau. Les vérités les plus simplement dites contiennent des principes dont les dimensions approchent celles des cieux et de l'éternité. Vous devriez chaque jour apprendre quelque chose de nouveau des Écritures. Sondez-les comme si vous étiez à la recherche de trésors cachés, car elles renferment les paroles de la vie éternelle. Priez pour avoir la sagesse et le jugement qui vous permettront de comprendre ces écrits sacrés. Si vous le faites, vous découvrirez de nouvelles splendeurs dans la parole de Dieu. Vous sentirez que vous avez reçu une nouvelle et précieuse lumière sur des sujets se rapportant à la vie éternelle, et les Écritures auront constamment pour vous une valeur nouvelle. Lorsque la vérité de la Bible est reçue dans le cœur, elle élève l'esprit au-dessus des choses terrestres et viles. Si la parole de Dieu est appréciée à sa juste valeur, jeunes et vieux jouiront de la droiture du cœur, seront fermes dans les principes, ce qui leur permettrait de résister à la tentation. Étude diligente et systématique. Parents, si vous voulez apprendre à vos enfants à servir Dieu et à faire du bien dans le monde, faites de la Bible votre manuel. Elle expose les pièges de Satan. Elle élève la race, réprouve et corrige la moralité relâchée, nous permet de distinguer le vrai du faux. La Bible, notre grande éducatrice, doit être le premier livre au-dessus de toute autre chose enseignée à la maison ou à l'école. Si vous lui accordez la place qui lui est due, Dieu sera honoré et travaillera à la conversion de vos enfants. Il y a un riche trésor de vérité et de beauté dans ce livre sacré, et les parents sont à blâmer s'ils n'en font pas un livre très intéressant pour leurs enfants. Il est écrit « Était la seule arme utilisée par Christ lorsque le tentateur s'approchait avec ses séductions. L'enseignement de la vérité biblique est la plus grande et vaste œuvre que tout parent devrait entreprendre. Avec une humeur agréable et enthousiaste, placez la vérité devant les enfants, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. En tant que père et mère, vous pouvez être, dans la vie quotidienne, des modèles de patience, de gentillesse et d'amour, en les attachant à vous. Ne les laissez pas agir à leur guise, mais montrez-leur que votre devoir est de mettre en pratique la parole de Dieu et de les élever en les entretenant, et en les admonestant dans le Seigneur. Observez un système d'étude des Écritures dans vos familles. Même s'il vous arrive de négliger tout ce qui est temporel. Veillez à ce que l'âme soit nourrie du pain de vie. Une heure ou une demi-heure passée chaque jour à sonder joyeusement la parole de Dieu, d'une manière sociable, donne de bons résultats d'une valeur inestimable. Laissez la Bible être son propre interprète, en réunissant tout ce qui y est dit sur un sujet donné à différents moments et circonstances. N'interrompez pas votre classe familiale à cause des visiteurs. S'ils viennent au moment de la séance, invitez-les à y prendre part. Montrez qu'il vous est plus important d'acquérir une connaissance de la parole de Dieu que d'obtenir des gains ou des plaisirs du monde. Si nous étudions chaque jour la Bible avec diligence et dans un esprit de prière, nous y découvririons chaque jour de précieuses vérités sous une nouvelle lumière, claire et puissante. Voulez-vous élever vos enfants en les entretenant et en les admonestant de la part du Seigneur? Faites de la Bible votre guide. Présentez-leur la vie et le caractère du Christ comme modèle à imiter. S'ils commettent des fautes, lisez-leur ce que le Seigneur a dit à propos des péchés semblables. Soyez constants et diligents dans cette tâche. Un seul mauvais trait de caractère toléré par les parents, non corrigé par les enseignants, peut entraîner une déformation et un déséquilibre du caractère. Enseignez aux enfants à avoir un cœur nouveau, à créer de nouveaux goûts, à avoir de nouveaux mobiles. Ils doivent recourir au Christ pour les aider. Ils doivent connaître le caractère de Dieu tel que révélé dans sa parole. L'illumination divine promise au lecteur. Comme le caractère de son divin auteur, la parole de Dieu nous présente des mystères qui ne peuvent jamais être pleinement compris par des intelligences bornées. Elle attire notre esprit sur le Créateur qui habite une lumière inaccessible. Elle nous présente ses desseins qui embrassent tous les âges de l'histoire humaine et qui n'atteindront leur accomplissement que dans les cycles sans fin de l'éternité. Enfin, elle offre à notre méditation des sujets d'une importance et d'une profondeur infinie, traitant du gouvernement de Dieu et de la destinée de l'homme. L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation du Christ, la régénération, la résurrection, et tant d'autres sujets renfermés dans l'Écriture sont des mystères trop profonds pour que l'intelligence humaine puisse les expliquer ou même les comprendre parfaitement. Mais Dieu nous a donné dans les Écritures l'évidence suffisante de leur divin caractère. Nous ne devons pas douter de sa parole parce que nous ne pouvons pas comprendre tous les mystères de sa providence. S'il était possible à des créatures humaines de parvenir à une parfaite intelligence de Dieu et de ses œuvres, il n'y aurait à partir de ce moment ni découverte de la vérité, ni accroissement des connaissances, ni développement de l'esprit et du cœur. Dieu ne serait plus l'être suprême et l'homme, ayant atteint les limites du savoir et du développement, meurt stationnaire. Bénissons Dieu qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu est infini et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. L'éternité ne suffira pas pour épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté et de sa puissance. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous courons sans cesse le danger de tordre les Écritures ou d'en donner une fausse interprétation. Nombreux sont ceux qui lisent la Bible sans profit, souvent même pour leur malheur. Quand on ouvre sa Bible sans respect et sans esprit de prière, quand les pensées et les affections ne sont pas fixées sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'esprit est assombri par le doute, et le scepticisme se fortifie dans l'étude même de la Bible. L'ennemi prend le contrôle des pensées, et suggère des interprétations. L'amour pour l'étude de la Bible n'est pas naturel. Jeunes et vieux négligeant la Bible. Ils n'en font pas l'objet de leur étude, la norme qui régit leur vie. Les jeunes gens surtout sont coupables de cette négligence. La plupart d'entre eux trouvent du temps pour lire d'autres livres, mais le livre par excellence qui montre le chemin de la vie éternelle n'est pas étudié chaque jour. Ils lisent attentivement des histoires vaines, tandis qu'ils négligent la Bible. Ce livre est notre guide vers une vie plus noble, plus sainte. Si la jeunesse n'avait pas perverti son imagination par la lecture d'histoires fictives, elle trouverait que la Bible est le livre le plus intéressant qu'elle ait jamais lu. En tant que peuple ayant reçu la grande lumière, nos habitudes, nos paroles, notre vie tant privée que publique doivent être moralement élevées. Accorder à la parole sa place d'honneur de guide dans le foyer. Quel soit le conseiller dans toute difficulté, la norme de toute pratique. Mes frères et sœurs, ayez la conviction qu'il ne peut y avoir une véritable prospérité pour chaque âme dans le cercle familial si la vérité divine, qui est la sagesse de la justice, n'en est pas le guide. Chaque parent ne devrait ménager aucun effort pour débarrasser son esprit de la pensée nonchalante qui considère le service de Dieu comme un fardeau. La puissance de la vérité doit avoir une action sanctifiante sur le foyer. On doit enseigner aux enfants, dès leur tendre enfance, les exigences de la loi de Dieu et la foi en Jésus notre Rédempteur qui nous purifie des souillures du péché. Cette foi doit être enseignée chaque jour, précepte par précepte et par l'exemple. L'étude de la Bible fortifie l'intellect. Si les hommes étudiaient convenablement la Bible, ils jouiraient d'une force intellectuelle. Les sujets traités dans la parole de Dieu, la digne simplicité de ses paroles, les nobles thèmes qu'elle présente à l'esprit développent les facultés de l'homme, qui ne peuvent se développer autrement. Dans la Bible est ouvert à l'imagination un champ infini. En contemplant ces grands thèmes, en s'associant avec ces scènes grandioses, les pensées et sentiments de l'étudiant deviennent plus purs, plus nobles que s'il avait passé du temps à lire un ouvrage purement humain, sans parler de ceux à caractère frivole. Les jeunes esprits ne peuvent parvenir au paroxysme de leur développement s'ils négligent la plus grande source de sagesse, savoir la parole de Dieu. La raison pour laquelle il n'y a que peu d'hommes saints d'esprit, ayant une dignité stable et solide, est qu'il n'y a que peu qui craignent Dieu, peu qui aiment Dieu, et qui traduisent fidèlement les principes religieux dans leur vie. Dieu veut que nous soyons ouverts à tous les moyens favorisant la culture et le renforcement de notre capacité intellectuelle. Si la Bible était davantage lue, si les vérités étaient mieux comprises, les esprits seraient plus illuminés et plus intelligents. L'énergie est accordée à l'âme qui sonde les pages de la parole de Dieu. L'enseignement de la Bible a une haute portée sur la prospérité de l'homme dans tous les domaines et dans toutes les circonstances de la vie auxquelles il contribue d'ailleurs à nous préparer. Il nous dévoile les principes qui sont à la base de la prospérité et la sauvegarde de la famille, et sans lesquels nul ne peut parvenir à l'utilité, au bonheur et à la considération en cette vie, pas plus qu'à la possession de la vie future. Étudiée et mise en pratique, la Bible donnerait au monde des êtres d'une intelligence plus puissante et plus fertile que ne pourrait le faire l'application la plus soutenue apportée à toutes les branches de la philosophie humaine. Christ dans toute la Bible. La puissance du Christ qui s'est manifestée sur la croix du Calvaire, pour que nous ayons la vie éternelle, doit être proclamée au monde. Il faut montrer que l'Ancien Testament, dans ses rites et ses symboles, contient l'Évangile aussi bien que le Nouveau. Celui-ci ne présente pas une religion nouvelle, et l'Ancien Testament ne nous en donne pas une qui doive être remplacée par le Nouveau. Le Nouveau Testament est seulement la réalisation et l'explication de l'Ancien. Abel croyait au Christ, et il fut sauvé par sa puissance aussi bien que Pierre et Paul. Énoch était un représentant de Jésus, comme Jean, le disciple bien-aimé. Il marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. C'est à lui que fut confié le message de la seconde venue du Sauveur. Énoch, le septième homme, dit Jude, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous. » Le message proclamé par Énoch et son enlèvement au ciel était de nature à convaincre tous ceux qui vivaient à cette époque. Methuselah et Noé pouvaient se servir de son exemple pour faire comprendre à leurs contemporains d'une manière convaincante que les justes seraient enlevés. Le Dieu qui marchait avec Énoch n'était autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il était alors la lumière du monde aussi bien qu'aujourd'hui. Les gens de cette époque ne manquaient pas d'instructions pour les diriger dans le sentier de la vie, car Noé et Énoch croyaient au Messie. L'Évangile est contenu dans les préceptes du Lévitique. Une obéissance implicite aux ordres de Dieu est exigée aujourd'hui comme alors. Combien il est essentiel que nous en comprenions l'importance. On demande souvent, pourquoi l'Église est-elle si tiède? La réponse est bien simple. C'est parce que nous nous détournons de la parole de Dieu. Si celle-ci était l'aliment de notre âme, si nous la traitions avec respect et déférence, nous n'aurions pas besoin de tant de témoignages. Les simples déclarations de l'Écriture suffiraient.